Le Christ n'a pas dit « Je suis la coutume », mais « Je suis la vérité ». Formule de Grégoire VII, pape de 1073 à 1085.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Ecclesia semper reformanda est. Il faut toujours que l'Église soit en réforme. Cette formule, qui est souvent acquise finalement au travers de l'histoire de l'Église, vaut effectivement d'être reprise au XIe siècle, au moment de la réforme grégorienne. Je vous propose donc aujourd'hui de voir au cours de notre chronique quels ont été les grands moments de cette réforme grégorienne qui a profondément marqué l'histoire de l'Église médiévale. Il faut dire qu'au cours du IXe et Xe siècle, la papauté avait connu une crise extrêmement importante. Aux alentours de 950 et de l'an 1000, elle était souvent en butte aux conflits avec la noblesse romaine, avec le peuple de Rome lui-même, avec ce qu'on appelait les barons de la noblesse romaine. Et puis il y avait également les ambitions de l'empereur germanique qui voulait tenir d'une main de fer l'Église, plutôt que de la laisser au contact de Rome. Aussi, une série de grands pontifes, au milieu du XIe siècle, ont cherché à réformer cet état de fait. Il faut dire que la période, effectivement, est, je dirais, délicate. C'est le moment où la féodalité s'impose progressivement dans une grande partie des sociétés européennes, mais inversement, la papauté peut s'appuyer dans sa volonté de réforme, sur l'ordre bénédictin, en particulier sur l'ordre des Clunisiens, qui vont fonder, et nous en avions déjà parlé lors d'une chronique précédente, un véritable empire monacal sur lequel la réforme grégorienne va effectivement pouvoir s'appuyer. Alors, réforme grégorienne, pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que le grand pontife de l'époque, c'est Grégoire VII, élu en 1073 et qui meurt en 1085, mais il faut être juste, la réforme le précède, il lui a donné son nom, mais à vrai dire, elle commence sous le pontificat de Léon IX, entre 1049 et 1054, et également le pontificat de Nicolas II, entre 1058 et 1061. La papauté va effectivement vouloir s'attaquer à toute une série de problèmes. D'abord, elle va vouloir lutter contre la simonie. Qu'est-ce que c'est que la simonie ? La simonie était le principe de vendre les sacrements de l'Église, de vendre les postes ecclésiastiques, de vendre les sièges d'évêques. Prenons un exemple précis. En 1030, l'évêché de Céu des Rougelles, dans les Pyrénées, est vacant. Il n'y a plus le titulaire. L'archevêque de Narbonne l'apprend. Il va donc décider d'acheter pour son jeune frère le siège épiscopal de Céu des Rougelles, et pour acheter ce siège, qui coûte tout de même 30 000 pièces d'or, il va vendre des objets du culte de la cathédrale de Narbonne, dont il va tirer un bon prix qui va lui permettre, en partie, d'acheter pour son jeune frère le siège de Céu des Rougelles. Si on ne peut pas lui dénier un sens de la famille, qu'il a indéniablement, on peut tout de même évidemment s'interroger sur ses pratiques, où finalement les sièges épiscopaux se monnayaient, de même que les sacrements. Donc, la papauté a voulu lutter contre cette simonie. Ce mot vient d'ailleurs du personnage des Actes des Apôtres, Simon le magicien, qui a voulu acheter à Pierre les pouvoirs que le Christ lui avait conférés, d'où le mot de simonie, venant donc de Simon. C'était donc là un élément très important de cette réforme grégorienne. Deuxième moment important, c'est à propos du mariage des prêtres. Il est vrai que depuis le IVe siècle, des pères de l'Église, des évêques, des pontifes avaient expliqué que le prêtre devait être célibataire, se donnant totalement à la suite du Christ. Dans la réalité des faits, la situation est bien plus complexe. Il y a même eu des synodes provinciaux, comme celui de Vaison en 569, qui s'accordaient pour dire que l'on pouvait être à la fois prêtre et marié, mais avec une condition, c'est que les prêtres mariés ne pouvaient pas former d'autres prêtres. Donc il y a eu, effectivement, pendant très longtemps, une présence non négligeable de prêtres mariés dans l'Église. Or, la réforme grégorienne, qui prend comme modèle, finalement, le modèle des moines, veut imposer progressivement la discipline du célibat sacerdotal. Alors, cette décision a d'ailleurs été parfois fort mal accueillie. Par exemple, en 1074, à Rouen, quand l'archevêque cherche à séparer les prêtres de leurs épouses, eh bien, il est chassé à coups de pierre par ces prêtres qui ne veulent pas se séparer de leurs femmes. Donc, il faudra encore fort longtemps pour que, véritablement, la discipline s'impose définitivement. Disons qu'elle ne va vraiment s'imposer qu'au cours du XVIe siècle avec la réforme catholique liée au Concile de Trente, puisque des études historiques ont montré qu'à la fin du XVe siècle, il y a encore dans certains diocèses un tiers des documents liés aux prêtres qui montrent qu'ils sont pères de famille et qu'ils lèguent d'ailleurs des biens à leurs propres enfants. Donc effectivement, la lutte à propos de cette discipline est véritablement entamée avec la réforme grégorienne, avec derrière l'idée la discipline des moines. Autre volet de la réforme grégorienne, c'est l'organisation de l'élection pontificale. Effectivement, le problème de l'élection pontificale, c'est qu'elle a été longtemps sous la pression à la fois de la foule romaine, du peuple romain, mais aussi des barons, voire même des puissants monarques de l'Empire germanique. Aussi, Nicolas II décide en 1059 de prendre un décret qui réserve aux seuls cardinaux le droit de vote. Alors ensuite, une fois que l'élu est désigné par le collège des cardinaux, eh bien, il sera acclamé par le clergé et le peuple de Rome. D'ailleurs, quand aujourd'hui encore, le pape nouvellement élu se présente à la loggia de Saint-Pierre, à la foule réunie sur la place, c'est un vieil héritage de cette acclamation médiévale où l'évêque de Rome était acclamé après son élection par le peuple et par le clergé. Pour compléter d'ailleurs cette affaire de l'élection pontificale, en 1179, lors du concile de Latran III, troisième concile de Latran, il a été décidé que l'élection ne serait acquise que par une majorité des deux tiers. En tout cas, le début finalement de l'organisation telle que nous la connaissons aujourd'hui d'une élection pontificale a lieu au moment de la réforme grégorienne. Et puis ce qui a été peut-être le plus significatif, le plus symbolique, le plus impressionnant de la réforme grégorienne, ça a été la lutte contre l'influence de l'empereur germanique pour la nomination aux grandes fonctions ecclésiastiques. Effectivement, Grégoire VII, lui-même d'origine allemande, s'en est pris directement à l'empereur Henri IV, qui tenait finalement à avoir la haute main sur toutes les nominations épiscopales dans l'Empire. La crise a été poussée jusqu'à l'excommunication de l'empereur, puisqu'effectivement celui-ci a été interdit de tout sacrement, et il y a eu ce fameux épisode de 1077, où, pieds nus, en robe de bure, le souverain est allé à Canossa pour demander pardon au pape et obtenir la levée de son excommunication. Il faut tout de même relativiser finalement l'événement. D'abord, remarquons que quand Henri IV obtient la levée de l'excommunication, il rentre dans le Saint-Empire romain germanique, et il va reprendre d'ailleurs la tradition de vouloir nommer les évêques. À vrai dire, l'avertissement n'a visiblement pas suffi. D'autre part, il faut voir aussi que quand le pape excommunie un souverain, il se trouvera toujours des évêques pour ne pas obéir au pape et finalement accorder les sacrements au souverain excommunié. D'autre part, cette querelle entre le sacerdoce pontifical et l'Empire a eu des conséquences importantes pour la ville de Rome, puisque les troupes impériales ont pris la ville de Rome en 1084 et celle-ci a été en partie pillée par les alliés du pape Grégoire VII, les Normands, qui ont pillé la région du Latran et de Saint-Clément. Finalement, la question du rapport dans ces nominations épiscopales viendra se terminer avec le Concordat de Worms, une espèce d'arbitrage conclu en 1122 entre le Saint-Siège et l'Empire et qui sera confirmé l'année suivante par le premier concile Latran. Effectivement, le pape donne le pouvoir spirituel, l'investiture spirituelle aux évêques choisis dans l'Empire, mais par contre, l'empereur garde le choix des personnes qui seront titulaires de ces postes épiscopaux. Donc vous le voyez, notre réforme grégorienne a été importante. Elle a fortement marqué l'Église médiévale. Au XIe et XIIe siècle, ça a été vraiment un moment extrêmement important, qui n'a pas abouti à une victoire totale d'ailleurs de la papauté en la matière. Mais elle va quand même entamer ce que l'on appellera plus tard la théocratie pontificale. C'est à ce moment-là que, véritablement, les pontifes, en particulier au XIIe et encore plus au XIIIe siècle, auront le désir de contrôler les monarchies médiévales. Et là, évidemment, la papauté pourra se heurter à des personnes comme Frédéric II, l'empereur germanique, ou bien, un peu plus tard, Philippe le Bel, roi de France.